Philosophie première par le Père Philippe à Saint-Judas, le 13 juin 90.
Nous allons continuer cette recherche sur la personne. La dernière fois, c'était le vivant, la personne humaine est le vivant le plus parfait que nous pouvons expérimenter dans sa complexité. Précisons maintenant que ce vivant, qui implique justement une âme et un corps, le corps, il est conditionné et en même temps, il est acte selon une modalité très particulière. Un acte qui est dans le devenir, donc qui connaît une précarité toute spéciale. Celle de notre monde physique. Par le corps, il est partie du monde physique. Il est en devenir. Et par le fait même, il y a en lui, perpétuellement, à la fois, ce renouveau du vivant et cette pente vers la corruptibilité du corps. Il porte en lui corruptibilité et quelque chose qui échappe. Au-delà de la corruptibilité, par la procréation, il y a comme une image de quelque chose d'éternel pour la nature humaine. Et par le point de vue spirituel, il y a une ouverture vers quelque chose n'est pas de limite. Par le corps, au contraire, la personne humaine connaît la temporalité. Elle est liée à tel moment. La naissance qui nous met durée, nous échappons au temps. Et dans l'homme, dans sa personne, il y a une durée spirituelle, intellectuelle, une durée passionnelle, psychique, tout le tragique, une durée biologique. s'impose d'une manière telle que il y a justement dans la vie humaine, donc dans la vie personnelle de l'homme, ce conditionnement qui ne peut pas échapper, qu'il peut assumer d'une certaine manière, le dépasser par sa durée. Mais ça s'impose à lui. En ce sens-là, on peut dire que l'homme, dans sa personne, a une histoire. Oui, temporalité, histoire. Et l'histoire, c'est justement le fait du temps et de la durée. L'homme seul a une durée, la personne humaine seule a une histoire. L'animal n'a pas d'histoire, au sens propre. Elle est uniquement dans le temps. Alors on pourrait dire que les espèces animales ont une histoire. Puisque c'est par la procréation, par la génération, que l'espèce humaine échappe au temps. Et donc il y a une histoire. Parler d'une histoire des différentes espèces animales. Et pour l'homme, il y a une histoire de l'individu, de la personne. Oui, c'est par là qu'on peut comprendre l'individu dans la personne humaine, qui n'est pas quelque chose d'autre que sa personne, mais qui est cette dimension de sa limite, de sa précarité, de sa corruptibilité. On porte en nous notre corruptibilité. Ça explique ce qu'il peut y avoir comme poids particulier qui peut conduire à une sorte de pessimisme. Démoralisation, de désespoir, parce que par le corps, il y a cette potentialité substantielle. L'homme, par son corps, est voué à la mort. Il n'est pas défini par la mort, mais il est voué à la mort. Donc il y a un conditionnement du temps qui est radical, puisqu'il est substantiel. Temporalité est dans un lieu, géographiquement. Il est né. Et ceci le conditionne aussi. Un conditionnement qui s'impose, ça fait partie de ces limites que nous pouvons constater à cause de notre corps. On est partie de l'univers. Par rapport à la personne humaine, c'est quand même quelque chose de très spécial de pouvoir toucher en nous cet aspect limite. Cet aspect d'ouverture vers l'infini par la connaissance et par l'amour. En ce sens-là, on peut dire qu'il y a réalité. On peut l'assumer, plus ou moins. Et on voit bien que les individus l'assument plus ou moins. Mais il est présent. Par rapport au soleil, à la lune. Comment dans certaines traditions religieuses, les purifications doivent se faire en dépendance de la pleine lune, en dépendance des éclipses. C'est un moine orthodoxe roumain qui avait passé assez longtemps dans l'Inde et qui me disait, parce que je crois que ça traduit bien cela. ce peuple lié à la Moïra, lié au destin du cosmos, voulant y échapper en se plongeant dans le Gange, et lui intellectuellement, tout en étant moi d'idée, un savant, réfléchissant sur ce que c'est que l'éclipse. C'était très impressionnant pour lui de sentir ces deux choses en l'homme, livrées au monde physique, et essayant d'échapper à ce monde physique par un appel religieux, et lui essayant d'échapper à ce monde physique. Il était chrétien, mais il faisait l'appel à la science. Comment la science purifie du destin, et comment les traditions religieuses voulaient purifier du destin. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important à saisir. L'individu, la personne. Est-ce que Maritain souligne, je le traduirai de cette manière-là, ce que je crois être beaucoup plus juste, c'est la lutte par l'individu. On est lié au conditionnement physique, cosmique, du temps et du lieu. Comme les animaux, quoi. Les gosses sont agités quand leur âge monte. Très difficile de tenir une classe quand il y a leur âge qui monte. Exactement comme dans une prairie, quand vous voyez les animaux et que leur âge monte. Ils sont intrigués. Ils vont se cacher dans des lieux. Et on est lié à ça. Ne pas le reconnaître, ce serait un manque de réalisme. Mais considérer que tout cela nous détermine, l'horoscope, ça nous détermine. On est né sous telle planète, donc nécessairement, c'est abdiquer la personne et de voir que l'individu. Et alors, ce serait important à souligner toutes ces dimensions du drame de la personne humaine. Parce qu'il y a une dimension dramatique et tragique qu'on trouve dans le grand théâtre grec d'Eschyle. Et le théâtre grec montre bien le tragique de la personne. Et Nietzsche, à sa manière, montre le tragique. Et ce tragique, c'est le conflit de l'individu et de la personne. Je dis conflit. Je peux dire aussi, alors ce serait la dernière chose que nous voyons au point de vue philosophique, la personne humaine réclame au milieu de cette complexité une harmonie, une unité. L'être dans la mesure où il est en acte, est un. Vous voyez, l'aspect substance, l'aspect acte, l'aspect un. Voilà les trois grands aspects de la personne humaine. Alors maintenant, si vous voulez, après avoir essayé de comprendre le point de vue des diverses modalités de l'acte, nous allons maintenant regarder l'unité de la personne humaine. Dans la diversité, dans la composition, la personne humaine ne peut être parfaite que quand elle respecte toute cette complexité. Elle ne peut pas être parfaite par la simplicité. Elle ne peut être parfaite que dans la complexité. Et dans cette complexité, vois la lune. Quand, justement, on considère que, de fait, en raison du tempérament qu'on a, en raison de la première éducation qu'on a reçue, on est déterminé pour toute sa vie. C'est tombé dans le point de vue de l'individu, partie de l'univers. Alors, essayons de comprendre ce problème de l'unité de la personne. Une unité qui ne peut se faire que dans l'harmonie. Qu'est-ce qui peut finaliser la personne humaine? Qu'est-ce qui peut être clé de voûte dans toute la complexité que nous avons vue? L'autonomie ne peut pas être clé de voûte. Polariser l'homme et la personne humaine sur l'autonomie, c'est voie sans issue. C'est très important de comprendre ça aujourd'hui. C'est même capital, parce que l'autonomie, poussée au plan psychologique, devient presque idole pour des quantités de personnes. On a la phobie de la dépendance. Biologiquement, cette croissance n'est pas continue. Mais spirituellement, elle est continue. Elle augmente tout le temps. Et elle implique par le fait même un dépassement de l'autonomie, les conditions de la croissance. Quelle est la condition de la croissance? C'est qu'on accepte de se dépasser. Parce qu'on est poussé vers quelque chose de plus. Et qu'on remet reconnaît qu'il y a en nous une potentialité qui peut toujours s'actuer plus. Donc je crois que la première, dès qu'on regarde le problème de l'unité, la première chose à regarder, c'est que l'autonomie en nous ne peut pas être un pôle qui unifie tout. C'est fondamental. C'est là où on détruit, si vous voulez, le point de vue de l'ousiologie. La substance ne peut pas être ce qui explique la personne. Et là, on donne raison à certaines critiques qui rejettent l'aspect de la substance pour la personne. Parce qu'on a trop construit la personne sur la substance. Ça, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Et la substance, c'est la perséité. Je suis moi-même. Donc, c'est l'autonomie métaphysique. Eh bien, cette autonomie métaphysique ne peut pas être ce qui donne la signification à la personne. Elle est un élément fondamental, mais elle n'est pas ce qui donne la signification à la personne humaine. Parce qu'autrement, je trouverai en moi-même ma propre signification. Je suis moi-même, regardez-moi, je suis l'homme. Jean-Jacques Rousseau. Et c'est beaucoup plus fort qu'on le pense. C'est présent dans toutes certaines conceptions actuelles de la personne. Le dépassement de la personne, c'est la découverte de la finalité. Par l'esprit, la finalité n'est pas seulement une finalité de l'espèce, est une finalité de l'individu et de la personne. Je suis capable d'opter pour une finalité. Et en optant pour une finalité, je relativise mon autonomie. Je me mets relatif à un bien. Et me mettant relatif à un bien, je suis capable de me dépasser. Puisque si ce bien est au-delà de moi, je tends vers ce bien. Et j'y tends de plus en plus. Et plus j'avance dans la structure de ma personne, plus je suis attiré vers cette fin. Plus cette fin me polarise et réalise en moi une unité. Voyez, au fond, là, on comprend qu'une personne humaine se fait de plus en plus. Elle se construit de plus en plus. La structure de la personne humaine n'est pas seulement sa substance. C'est une structure dynamique, comme on dit aujourd'hui. Ça fait bien dire ça. Elle n'est pas statique uniquement. Ce sont des chaînes, statiques et dynamiques. Vous comprenez bien, si c'était mon autonomie qui me structurait entièrement, je serais statique. Et si, de fait, je suis une personne qui se construit tout le temps, il y a un dynamisme en moi. Et ma structure est dynamique. La structure de la personne humaine est dynamique. Pourquoi ? Parce que la signification de ma personne ne peut venir que de ma finalité. Elle ne peut pas venir de mon autonomie. Très bien dire, je suis une personne, je suis une nature humaine. Mais à quoi ça vous avance? Si vous ne savez pas la finalité de votre nature humaine. Donc, la nécessité de découvrir ce pourquoi je suis fait. Et c'est une nécessité telle que si je ne le sais pas, je me désagrège. Mais c'est le problème de la désagrégation de la personne humaine qu'on voit aujourd'hui. Une désagrégation qui se fait avec une rapidité folle. Les psychologues sont obligés de le constater. Et pourquoi ça? C'est parce que la structure de la personne humaine se fait par la finalité, et pas autrement. Quelqu'un quelqu'un qui ne sait pas où ils vont. Il a accumulé des quantités de choses, des quantités de compétences, mais c'est pas ça qui le structure. C'est pas ça qui donne la signification à sa vie. Quelqu'un qui ne sait pas la signification de sa vie, eh bien, nécessairement, il est un vaincu. Le conditionnement le détermine. Et donc il est vaincu. C'est l'individu qui passe au-delà de la personne. Dans ce drame qu'il vit. Tout, à un certain moment, un désespoir. Quand il arrive à un certain âge. Quand on est jeune, on se dit demain, demain, demain. À un certain moment, on ne dit plus demain. Pour savoir quel âge exactement. Le gosse dit ça, demain. Alors vous voyez, à ce moment-là, il garde l'espérance. Dans sa vie, mais de but dans le sens très très fort, de finalité. Alors quelle est la finalité pour l'homme? D'après tout ce que nous avons vu. L'amour d'amitié. La vérité. Voilà les deux grandes finalités qui s'imposent. L'amour d'amitié. La rencontre. Comme ami. Et cette rencontre peut aller toujours plus loin recherche de la vérité. La vérité nous libère de tout conditionnement, de toute limite. C'est le propre de la vérité. Et la vérité vous libérera. Elle nous libère de tout conditionnement et de toute limite. Et c'est pour ça que la recherche de la vérité, même à l'intérieur de l'amour d'amitié, me permet de comprendre que cet amour d'amitié peut aller toujours plus loin. Je ne peux jamais dire c'est suffisant. Parce qu'il y a dans la personne de l'autre un certain absolu que je recherche. Mais je peux découvrir aussi que cet amour d'amitié à l'égard de l'homme demande d'être dépassé grâce à la recherche de la vérité. En découvrant la personne, si elle existe. Métaphysique, je ne peux pas encore le dire. Si elle existe, une personne qui est l'être parfait, il y a une ouverture vers cela et une attente vers cela. Puisque, au plan philosophie première, je n'ai pas encore découvert l'existence de l'être premier. Au plan philosophie première, je sais que des traditions religieuses en parlent. Et donc, je vois bien en moi cette lucarne, cette ouverture vers un absolu qui peut-être existe, qui selon les traditions religieuses existe. Vous voyez, je le pose comme une grande hypothèse de recherche. Et cette hypothèse de recherche est suffisante pour animer une recherche de vérité. Vous voyez bien, c'est important, puisque ça permet à quelqu'un qui est en recherche de montrer que sa personne humaine reste ouverte à un dépassement par la vérité. Il y a quelque chose qu'il peut saisir. C'est, il y a une finalité dans l'amour d'amitié. Ça, tout homme peut le saisir. Et cette finalité dans l'amour d'amitié reste limitée. Parce que l'ami que j'aime, c'est une personne comme moi. Donc elle est conditionnée, elle peut mourir. Et donc, ce n'est pas une finalité absolue. Elle peut mourir. Puis c'est pas toujours commun de l'aimer. Parce qu'elle est terriblement limitée. Je me heurte constamment à un mur. Je voudrais que ce soit Miss Idéal. Je voudrais que ce soit un homme parfait. Et ce ne l'est pas. Mon réalisme demeure. Je sais que ce n'est pas comme ça. Donc c'est limité. C'est quand même une fin. C'est quand même quelque chose de prodigieux. Mais c'est limité. Donc la recherche de la vérité ne peut pas s'arrêter à ça. Et la finalité de la personne humaine va m'obliger de pousser la recherche le plus loin possible. Existe-t-il une personne au-delà de ma personne et au-delà de tous mes amis? Puis-je, par la vérité, relativiser tous mes amis en les aimant encore plus, puisque je serai dans une vérité plus grande? C'est pas du tout en les niant, mais en les aimant encore plus. Il y a là le problème profond de la finalité de la personne humaine. Au plan métaphysique, je respecte ma recherche métaphysique. Pas encore découvert l'existence de l'être premier. Et le problème de la personne est antérieur à cela. Et je crois ça très important. Parce qu'au fond, c'est la personne humaine qui est le grand levier pour me dépasser. Ce n'est pas le cosmos. Alors je laisse tomber, voyez, le bing-bang. Ça va. présenter à la télévision pour te montrer la chose merveilleuse de pouvoir soi-même déterminer.